Une maison pour la vie avec la fondation Texier-Gallas. Simon Martin sur Radio Grand Ciel. Dans notre sixième émission en partenariat avec la fondation Texier-Gallas, nous allons découvrir un autre métier, une autre forme d'engagement auprès des personnes âgées. Bien sûr, nous entendons les critiques faites parfois aux EHPAD et nous ne minimisons pas la tension qui peut naître au sein d'une équipe de soins, parfois en sous-effectif. Et pourtant, au cours de toutes ces émissions, nous avons pu voir que les besoins d'un résident sont nombreux et qu'une foule de personnes œuvrent chaque jour afin de leur rendre la vie plus facile et plus agréable. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Quentin Xavier Morera, le psychologue de la fondation Texier-Gallas. Quentin Xavier Morera, bonjour.
Bonjour.
Je dis le psychologue, mais vous n'êtes pas le seul, car il y a de nombreux établissements dans la fondation.
C'est ça. Il y a 7 établissements, dont 6 EHPAD au sein de la fondation. Et donc, je suis un des 4 psychologues qui interviennent dans chaque établissement.
Ouais. Alors, dans quel établissement vous intervenez ?
Alors, j'interviens dans l'EHPAD d'Annette,
ouais.
Dans l'EHPAD d'Orge et Rambos, et au sein du PASA de l'EHPAD de Tiron-Gardet.
D'accord, donc aux 4 coins du département, là, pour le
c'est
coup,
ça
vous fait de la route, là. Alors, Quentin Xavier Morera, quand un futur résident se présente dans une maison de retraite, il laisse derrière lui une maison, un quartier, des habitudes, à un âge où justement on n'a pas du tout envie d'être bousculé par la vie. C'est un choix difficile pour lui ?
C'est un choix difficile et qui, des fois, s'impose à lui sans qu'il ait vraiment le choix, des
ouais.
fois.
Et c'est une source d'angoisse, du coup ?
C'est une source d'angoisse.
De stress, d'angoisse.
Oui, c'est très déstabilisant d'entrer dans un environnement qui bouleverse totalement l'individu, qui nous bouleverse totalement. On perd toutes nos habitudes, les résidents sont très stressés, très angoissés au moment d'arriver au sein de l'établissement. Donc c'est pour ça qu'il existe aussi des préadmissions. Voilà, c'est une visite avant d'arriver en EHPAD, une visite avec les proches et le résident pour essayer de lui montrer un petit peu comment se présente l'établissement, comment se présentent nos chambres, comment on vit au sein d'un EHPAD et préparer au mieux l'entrée.
Et vous êtes là dès le début, dès l'accueil du résident ?
Alors, sur Annette, en tout cas, oui, je participe aux préadmissions. Sur Orgères, quelques-unes aussi. Quand je peux être présent, oui, c'est mieux de participer.
Sinon, vous intervenez dans les semaines qui suivent son arrivée.
C'est ça. On essaye dans les
plus
semaines
vite possible,
suivent,
quoi. Enfin, ouais,
c'est
ouais.
ça, de faire un premier rendez-vous avec une anamnèse, de prendre le temps de connaître un petit peu les habitudes de vie du résident au domicile, ce qu'il aime, ses besoins, et pour qu'on puisse s'adapter au mieux et que son entrée se passe le mieux possible.
D'accord. Donc vous n'avez pas de mots à dire, vous, sur l'entrée du résident, sur son acceptation dans l'établissement. Vous
Alors,
intervenez après.
On me pose souvent la question.
Si, c'est vrai.
Oui, quand même. Surtout par rapport au... Voilà, on a des résidents qui arrivent maintenant de plus en plus tard, au sein des EHPAD, et qui souvent sont dans une certaine dépendance déjà physique ou alors avec beaucoup de troubles cognitifs ou de troubles du comportement. Donc il y a déjà une discussion qui s'engage avec le médecin coordinateur ou l'IDEC, l'infirmière coordinatrice, pour déjà évaluer si on peut mettre en place ce qui conviendrait du coup aux résidents au sein de notre établissement.
Et donc vous êtes associé à cette décision ?
Oui.
Alors, vous l'avez dit, le futur résident n'est pas toujours pleinement associé à ce choix d'entrer en EHPAD. Et ça aussi, ça ajoute, j'imagine, du stress. Je ne suis plus maître de mes choix, plus maître de ma vie.
Alors, c'est vrai qu'au sein de la fondation Texier-Gallas, on fait très attention, du coup, aux envies et aux choix. On laisse quand même le choix au maximum aux résidents. C'est-à-dire que lors de la préadmission, je suis aussi garant du consentement. C'est pour ça aussi que je suis présent. J'essaye de relever le consentement de la personne pour rentrer en EHPAD. Donc, pour nous, au sein de la fondation, c'est très important que ce soit aussi choisi et qu'il y ait un consentement de la part du résident.
Ouais, ouais. Alors, vous l'avez dit, les personnes qui arrivent sont de plus en plus âgées. J'imagine que ça complique aussi un petit peu votre tâche. Y a-t-il un bon âge pour entrer en EHPAD ? Est-ce que attendre le dernier moment, c'est toujours la meilleure solution ?
Il n'y a pas de bon âge, non, je ne pense pas. On n'est peut-être jamais réellement prêt à rentrer dans un EHPAD. Hein. C'est toujours un bouleversement. Ça demande de grandes capacités d'adaptation.
Mais plus on attend, plus ça va être compliqué ? Ouais. Pas forcément.
Si, plus on attend, plus c'est compliqué. En effet, plus on va avoir plus les résidents ont des troubles cognitifs, des troubles du comportement, des démences. Bien évolué, plus c'est difficile de mobiliser nos capacités d'adaptation, notre flexibilité. Et donc forcément, pour les résidents, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter. Et pour les professionnels aussi, d'adapter au mieux l'environnement, c'est de plus en plus difficile.
Ouais. Alors, s'adapter à la vie d'un EHPAD, ça veut dire aussi pouvoir supporter les autres, parce qu'on passe d'une situation où peut-être on était seul chez soi à un établissement où on partage les repas, on partage des activités. Ça, c'est compliqué.
Ça, c'est compliqué, en effet. Y a un grand travail à faire, un grand travail de resocialisation, parce que voilà, beaucoup de personnes ont en effet vécu des deuils successifs, donc avec des familles qui se sont réduites petit à petit, ou aujourd'hui des proches, des enfants qui s'éloignent géographiquement aussi. Donc ça laisse les personnes dans une certaine solitude au domicile. Et il va falloir que la personne se resocialise petit à petit. Et ça peut prendre du temps, mais il faut qu'on respecte aussi cette temporalité. Il ne faut pas qu'on soit dans la surstimulation non plus et qu'on impose aux résidents de participer à toutes les activités. Il faut qu'on s'adapte aussi à ses envies et à son vécu. C'est pour ça que récolter les habitudes de vie du domicile à l'entrée ou en préadmission, ça nous permet de savoir ce qu'on pourra proposer au moment où le résident va entrer et de respecter cette temporalité.
Et dans d'autres cas, au contraire, ça peut être une forme de solitude qui s'installe. Je pense à tous ceux qui ne reçoivent aucune visite, par exemple.
Alors oui. Certains résidents, en effet, qui ont peu de famille, reçoivent peu de visites, en effet. Mais c'est pour ça que nos professionnels sont très attentifs aussi à cet isolement. Et même si la personne refuse de participer à certaines activités, on va quand même essayer de passer en chambre, de passer de petits temps relationnels. Et ça va leur permettre aussi de faire de se sentir mieux, de leur faire du bien.
Ouais. Alors, au bout du chemin, tout le monde le sait, il y a la mort. Les personnes âgées le savent bien. Elles vous en parlent, ça, quand vous avez des rendez-vous avec elles ?
Oui, la mort fait partie intégrante de notre travail, de notre vie. Mmh. La vie et la mort, c'est tout le grand sujet de nos discussions, de nos échanges au sein des EHPAD avec les résidents. Donc oui, on essaye de préparer au mieux cette mort, d'en parler avec les résidents, mais les résidents nous en parlent très facilement. C'est plutôt avec les professionnels ou avec les familles, où là, il existe un certain tabou dans notre société autour de la mort. Et donc, le rôle aussi du psychologue, c'est d'arriver à en parler, à prendre un temps pour faire exister cette mort, pour qu'on puisse verbaliser nos ressentis, mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur la mort. Et donc, y a un travail à faire avec les familles, avec les professionnels, et forcément avec les résidents.
Ouais. Alors, quel autre type d'angoisse vous avez pu déceler chez les personnes âgées dont on n'aurait pas parlé
Y a différentes angoisses, forcément, par exemple, qui arrivent plus souvent aussi en fin de journée, quand la nuit, la nuit arrive. Les angoisses nocturnes, c'est là où tout va se réveiller. Les angoisses de séparation... Se retrouver seul dans sa chambre la nuit, c'est angoissant pour beaucoup. Et on essaye d'adapter au mieux l'environnement, avec le résident, les familles et les soignants, pour limiter en tout cas cette angoisse et la prévenir.
Alors, quels sont les outils à votre disposition ? J'imagine, évidemment, donc vous avez des rendez-vous, des conversations, des séances, des dialogues. C'est pas toujours évident, surtout, j'imagine, avec des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. C'est peut-être pas toujours possible. Est-ce que vous avez d'autres moyens, justement, pour les aider, pour intervenir ?
Alors, oui, quand c'est difficile pour un résident de pouvoir élaborer, où on arrive au travers d'échanges pluridisciplinaires avec les équipes, à se réunir pour lors des transmissions, par exemple, qui se passent en après-midi, où on s'échange les informations qui se sont passées dans la journée. On prend un temps pour dire, alors, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour essayer de réduire l'anxiété ou l'angoisse qui arrive pour tel résident. Et on essaye déjà de l'identifier. Et si on se rend compte qu'elle arrive à peu près en fin de journée, on va essayer de préparer le résident à cette fin de journée et d'être le plus possible présent autour de lui. Et ça va passer par l'imagination de chacun, essayer de trouver... Et par essai-erreur aussi. On va essayer de mettre en place certaines choses, que ce soit des lumières, des passages, des petites activités en fin de journée. Et si c'est non fructueux, on va essayer d'autres choses. On va continuer à en discuter tous ensemble pour trouver la solution.
Ouais, c'est extrêmement personnalisé, forcément, quoi.
C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'il existe, du coup, les projets personnalisés au sein des... au sein des EHPAD.
Et ça peut aller jusqu'aux antidépresseurs, des choses comme ça, j'imagine ?
Oui.
En cas d'ultime nécessité. Ouais.
C'est ça. Forcément, notre approche, nous, en tant que psychologue, elle est non médicamenteuse. Mais malheureusement, des fois, on a pas d'autre choix que de s'appuyer sur un médicament. Ne serait-ce que, voilà, comme une béquille. Le médicament peut être une béquille aussi pour entamer derrière, ne serait-ce qu'une psychothérapie ou autre. Des fois, c'est nécessaire de passer par là.
Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison. Quatre carreaux pour le ciel, une cheminée pour Noël. À gauche un pommier, la tarte, à droite un voilier pour qu'on parte. Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison. À droite un voilier pour qu'on parte. Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison.
Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel, une maison pour la vie, et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Quentin Xavier Morera, qui est le psychologue, un des quatre psychologues de la fondation Texier-Gallas. Quentin Xavier Morera, vous intervenez aussi auprès des familles. Alors on sait combien les relations peuvent être compliquées en famille. Quel est votre rôle ?
Alors, mon rôle, ça va être de pouvoir... accueillir la famille, qu'elle puisse déposer ce qu'elle ressent. C'est vrai que l'entrée en EHPAD de parents, ça peut être vécu très difficilement. Hein. Il y a une certaine culpabilité que doivent porter aussi les familles au moment où leurs proches entrent en EHPAD. Et tout l'enjeu, c'est de les accompagner au mieux pour qu'ils ne portent pas cette culpabilité et peut-être aussi résoudre des fois certains conflits qui existent depuis très longtemps avec leurs parents.
Ça peut s'articuler sous une forme presque de thérapie familiale ?
Ça peut, c'est très rare,
ouais.
Mais en tout cas, on peut, ne serait-ce que dans le face-à-face avec la famille, essayer de trouver des solutions pour apaiser certains conflits, ou alors la principale demande aussi des familles, c'est de trouver des outils pour arriver à communiquer ou à entrer en échange avec leurs proches, leurs parents. Beaucoup sont atteints de maladies neurodégénératives ou de troubles cognitifs qui rendent souvent la communication très compliquée. On a des patients qui sont malheureusement mutiques Et donc, c'est très difficile de rentrer en relation avec eux. Et donc là, les familles viennent nous voir pour nous demander aussi un appui, un soutien pour trouver des solutions. Donc voilà, là, on essaye de passer aussi au travers de médias, que ce soit les images, les vidéos, le toucher. On a d'autres moyens de rentrer aux communications aussi avec nos parents.
Et est-ce qu'il vous arrive d'interpeller aussi des familles parce que elles laissent une personne âgée justement dans la solitude ou des choses comme ça ? C'est compliqué ?
Ah, c'est compliqué. Je suis présent.
Ouais.
Hein, quand je sens que une famille a besoin, si vraiment la demande n'émerge pas d'une famille, je peux aller me présenter, mais c'est pas moi qui vais vraiment aller au-delà de la demande.
Il n'y a aucune obligation de toute façon. Pour une famille de rendre visite, malheureusement, à une personne âgée. Vous l'avez dit, eux aussi sont confrontés à l'angoisse de la mort, donc pas nécessairement de la leur, mais de celle d'un parent, du résident. Comment on en parle avec eux ? Est-ce que ce sont des questions qu'ils arrivent facilement à aborder avec vous ?
Non, justement, les familles ont du mal à aborder cette question et ils viennent souvent avec des questions par un chemin un petit peu détourné pour qu'on en arrive justement à mettre des mots sur cette mort, sur le fait que leur parent peut mourir à tout moment comme nous. Hein. C'est difficile de faire face à cette angoisse, mais il faut arriver à mettre des mots dessus, à lui laisser une certaine place. Hein. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir accompagner au mieux notre proche et être plus à l'aise aussi avec cette mort.
Alors j'imagine que dans le cas des familles, ce ne sont pas des séances régulières, ce sont simplement des rendez-vous qu'ils prennent avec des demandes particulières à chaque fois.
Dans mon travail, en tant que psychologue, je ne prends que très rarement des rendez-vous, ne serait-ce qu'avec les résidents ou avec les familles. Tout se fait, je sais que je vais voir tel résident ou telle personne, on se dit un jour, mais on ne se fixe pas d'heure. Parce qu'il y a beaucoup d'aléas hein, dans l'établissement, un résident qui a dû partir pour une visite médicale, qui a de la visite ou qui est à une activité. Donc il faut être très flexible dans ce travail. Avec les familles, c'est vrai que quand elles viennent en visite, c'est à ce moment-là aussi qu'on se présente et qu'on arrive à accrocher, à avoir une certaine alliance qui peut se mettre en place. Et donc on peut déterminer ensuite des rendez-vous au fur et à mesure de nos échanges et en fonction de leurs besoins et de leurs demandes.
Le personnel, j'en parlais un petit peu dans mon introduction, on sent cette tension, hein, même au sein de la Fondation, qui le personnel semble, ceux que nous avons rencontrés en tout cas, semble plutôt d'accord pour dire que la Fondation qui ne fait pas de profit est vraiment au service de la personne âgée. Et pourtant, il peut y avoir des tensions, et on sait qu'elles existent, principalement à cause des sous-effectifs, par exemple. Vous avez aussi un rôle auprès du personnel ?
Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs casquettes en tant que psychologue. On a forcément, on en a parlé précédemment, la casquette envers les résidents, mais aussi auprès du personnel. On est là pour essayer d'évoquer, en tout cas s'il y a une situation de crise, pouvoir prendre le temps de débriefer après une situation de crise, en parler, élaborer certaines choses. Et on est là aussi pour les soutenir et trouver des solutions ensemble. En effet, il y a une charge de travail qui est de plus en plus importante au sein des EHPAD et donc forcément qui rend le travail de plus en plus difficile pour les soignants et qui du coup se renferme de plus en plus aussi dans le soin. Donc notre rôle en tant que psychologue, c'est aussi essayer de les faire revenir un petit peu, de reprendre un petit peu de distance par rapport à ce soin. Et donc forcément, on met en place aussi des formations auprès des soignants. Parce que ce sont des personnels qui ne sont pas forcément formés hein, aux troubles du comportement, aux troubles cognitifs. Et donc c'est important qu'on puisse mettre en place des choses en tant que psychologue.
Je me mets à la place de quelqu'un qui commence sa carrière dans un EHPAD, même si évidemment on lui a dit qu'il fallait peut-être pas trop s'attacher aux résidents, que la mort est présente, j'imagine, chaque semaine, chaque mois dans un EHPAD. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas, ça. Et c'est sûrement un cap assez difficile à passer quand on commence dans le métier. Et peut-être même plus tard, s'habitue-t-on justement à voir les résidents partir les uns après les autres ?
C'est toujours très difficile. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps d'en parler Surtout les premières fois. En effet, lorsqu'un professionnel arrive dans un EHPAD, souvent il n'a jamais travaillé auprès des personnes âgées, des fois n'a pas fait de toilettes, n'a pas été formé à tout ça. Et vivre un premier décès ou assister à un décès, c'est très dur, ça peut être très violent. Donc c'est pour ça qu'on est présent. On prend le temps d'en parler, déjà avant aussi, avec le personnel, de pouvoir se préparer un petit peu à cette mort, même si elle reste toujours violente. En tout cas, les émotions, on les a, hein, c'est important. On peut être affecté, on sera affecté de toute façon par un décès, mais c'est en mettant des mots dessus, en partageant cette expérience avec les autres professionnels qui nous entourent, que la douleur peut s'apaiser et que la mort se passera mieux.
Un jour, je te dirai, c'est toi que j'aime, alors j'inventerai d'ardents poèmes. Pour toi, je chanterai. Phrases, serments qui tôt s'envolent, soupirs, baisers frivoles, de vous je suis là, et d'autres ne voient que cela. Pour moi l'amour n'est pas là, garde ton âme claire et pure de toutes les sourires, ô toi que j'attends, toi ma princesse au cœur dormant, toi mon si doux. Je dirai, c'est toi que j'aime, alors j'inventerai d'ardents poèmes. Pour toi, je chanterai des mots suprêmes lorsque je te dirai.
Une maison pour la vie sur Radio Grand Ciel. Nous parlons aujourd'hui avec le psychologue de la Fondation Texegalas, Quentin-Xavier Morera. Quentin-Xavier Morera, venons-en à votre parcours. Alors, comment devient-on psychologue, pour commencer ?
Tout d'abord, il y a un cursus à suivre. Il faut un master en psychologie. Donc, tout d'abord, il faut s'inscrire à une licence de psychologie. Aujourd'hui, il existe aussi plusieurs type de psychologue. Il n'y a pas un psychologue, il y a le psychologue clinicien, neuropsychologue, qui est une approche plus neurologique du système de nos cognitions, et psychologue du travail, psychologue dans l'enfance aussi. Et donc il faut s'inscrire à une licence de psychologie qui dure 3 années. Et ensuite, à partir de cette licence, c'est là où on s'oriente dans le choix, dans le domaine où nous souhaitons aller. Et après cette licence, du coup, s'inscrire dans un master de psychologie et avoir ensuite des stages. Et c'est à l'obtention de ce master qu'on devient psychologue.
Oui. Et il y a une spécialisation de psychologue gérontologue ?
Alors, il existe dans certaines institutions, dans certaines universités, des spécialisations. Mais on n'est pas forcément gérontopsychologue pour travailler auprès d'un public en EHPAD et de personnes âgées. Donc je ne suis pas spécialisé en gérontologie ou en gérontopsychologie, mais forcément j'ai suivi quelques formations sur les troubles du comportement, les troubles cognitifs, et le métier de psychologue, c'est se former en permanence. On obtient un master de psychologie, mais il faut continuer à se former tout au long de notre vie.
Oui, la documentation, j'imagine, les ouvrages, tout ça, ce sont des choses qui vous nourrissent dans votre métier.
C'est ça, il faut qu'on arrive à prendre ce temps, des fois qui...
Oui, c'est pas forcément évident,
c'est ça. J'imagine. C'est difficile de pouvoir prendre ce temps, donc c'est important aussi de le cadrer, de prendre un temps pour s'informer, pour se former et former aussi à les autres professionnels.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de devenir psychologue ?
J'ai toujours aimé être au contact des autres. Hein, et forcément, voilà, j'ai toujours été aussi empathique et curieux. Et je pense que c'est cette curiosité aussi qui m'a amené à essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement psychique des humains. Et petit à petit, alors j'ai commencé, du coup, je me suis intéressé à la psychologie, donc j'ai commencé dans une licence de psychologie, et finalement, ça m'a très vite plu. Ouais. Et voilà, au fur et à mesure de nos stages, j'ai compris que c'était vraiment un métier très très riche. Et,
ouais. Alors, et j'imagine que vous avez vu différentes facettes du métier, au moins à travers des stages, peut-être même à travers des embauches précédentes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec les personnes âgées ?
Alors ça s'est fait naturellement. J'ai pas eu l'envie spécialement de travailler avec les personnes âgées, mais j'ai fait un service civique au sein de la fondation avant d'être psychologue. Un service civique dans le but de travailler autour de l'amélioration de la qualité de vie des résidents. Et finalement, en étant au chevet des résidents, en étant dans un établissement où il faut faire vivre, hein, c'est vraiment un établissement de vie. Ça m'a très vite plu et ils ont tellement à nous apporter, les résidents, avec des vécus si riches que c'est un métier passionnant.
Vous avez le sentiment de vous enrichir au contact de ces personnes âgées ?
Oui, quotidiennement. C'est vrai qu'on apprend énormément de leur expérience, de leur façon d'exprimer les choses aussi. On apprend beaucoup dans le métier de psychologue, mais surtout auprès des personnes âgées.
Et êtes-vous un témoin justement privilégié, un confident privilégié auprès de ces personnes âgées qui vont vous raconter leur vie et aussi évidemment leur angoisse, mais aussi leur vie
Oui, c'est ça. Il faut d'abord que il y ait une certaine alliance qui s'installe.
Une certaine confiance,
j'imagine. Oui, une certaine confiance qui s'installe, puisque en tant que psychologue, c'est vrai qu'on nous livre les choses les plus intimes. Et donc oui, je suis un confident privilégié.
Quentin Xavier Morera, un grand merci de nous avoir rendu visite dans nos studios de Radio Grand Ciel. Je vous rappelle que cette émission est à réécouter sur notre site internet www.radiograndciel.fr et je vous dis à très bientôt. Merci.
Merci beaucoup.
J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent. Assis sur le bord des fleuves, ils regardent s'en aller dans la mer, les bouts de bois, les vieilles affaires, la beauté d'Ava Gardner. Ça met dans leurs yeux de savoir que tout va dans la mer. La jeune fille adoucit des soirs de verre, les bateaux, les avions de guerre, la beauté d'Ava Gardner. Les murs écroulés du monde, enfance blonde, Edith Nylon, les nageuses à l'envers, les odeurs dans les chemins de fer, la beauté d'Ava Gardner. J'aime les regretteurs d'hier que tout ce qu'on gagne on le perd, qui voudrait changer le sens des rivières, retrouver dans la lumière la beauté d'Ava Gardner, retrouver les choses premières, la beauté d'Ava Gardner.